À table.
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du Pat,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire
sur Radio Bartas.
107 FM.
À table.
Retrouvez-nous une semaine sur deux, le mardi à 15h et le dimanche à 11h30.
Bonjour à toutes et à tous, mangeuses et mangeurs du Sud-Lozère et d'ailleurs. Bienvenue dans le 14e épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT. C'est le projet alimentaire de territoire. Aujourd'hui, c'est Floriane qui vous parle et j'anime ce projet avec Louise qui anime souvent une émission sur deux. L'objectif du projet alimentaire de territoire, c'est rendre accessible à tous et à toutes une alimentation saine, durable et locale. Comment ? En mettant autour de la table toutes les personnes qui s'intéressent à l'agriculture et à l'alimentation et qui souhaitent s'impliquer, par exemple pour installer des agriculteurs ou des agricultrices, développer les circuits courts et de proximité, proposer des ateliers cuisine, instaurer l'éducation au goût et faire des ateliers potagers à l'école. Lors de l'émission précédente, Louise, vous avez parlé des moulins et de la filière autour des céréales, avec plusieurs invités, Christophe Bourrelli qui est meunier au moulin de Grattegal, Guillaume Xuerev qui est meunier au moulin de Laborie, et puis il y avait aussi Christophe Brun qui est boulanger à La Malène. Et ensuite, vous aviez eu une chronique santé et cuisine avec Caroline Gagnère autour des sucres et des fibres. Aujourd'hui, notre programme, c'est l'agropastoralisme et le changement climatique. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Romain Lai.
Oui, c'est Lai Romain. Je suis chargé de mission agropastoralisme au Parc national des Cévennes.
Et je suis aussi avec Julie et Dominique de l'Entente.
Bonjour. Du coup, moi, Julie Hébrard, je suis chargée de mission agropastoralisme comme Romain, mais à l'Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes.
Et moi, c'est Dominique Lizard et je suis chargé de mission sur un observatoire de l'activité agropastorale et des paysages.
Et puis, on a aussi Julien Lespine au téléphone depuis les vallées Cévenoles. Salut Julien.
Bonjour à tous. Donc oui, Julien, moi je suis éleveur avec ma compagne, donc éleveur de chèvres et puis aussi castagniculteur sur la ferme des Petits Ruisseaux.
Merci beaucoup. En fin d'émission, on aura la chronique Jardin animée par Jean-Jacques de l'association Jardin Nature 48. Et ce mois-ci, nous allons parler de la culture des cucurbitacées. Et il y a toujours Léo à la technique qui assure. Merci beaucoup. Bon, avant de commencer et avant de discuter avec tous les invités qu'on a autour de la table, juste une petite définition. Alors, c'est celle de l'Association française de pastoralisme. Donc, quand on parle de pastoralisme, on parle de l'ensemble des activités d'élevage qui valorisent par un pâturage extensif les ressources foragères spontanées des espaces naturels. Donc, quand on a dit ça, on voit quand même assez vite de quoi il s'agit. Il se trouve que c'est en fait l'activité principale, l'activité agricole principale du sud de Lozère, cette activité d'élevage. Et donc, ces élevages pastoraux, ils valorisent souvent des terrains qui ne sont pas mécanisables et qui permettent d'entretenir à la fois les milieux, les paysages, de limiter le risque incendie. Et ensuite, on parle d'agropastoralisme quand le pastoralisme est associé à des productions végétales qui permettent de compléter l'alimentation des troupeaux. Donc, quand sur la ferme, on a aussi de la production de fourrage, de céréales. Et traditionnellement, dans les Cévennes, c'était sur les terrasses qu'on pouvait cultiver ces céréales ou dans les dolines sur les causses. Donc c'est une activité en fait à la fois traditionnelle mais en même temps complètement d'actualité. Sur les 588 fermes du sud de Lozère, 329 ont une activité d'élevage comme atelier principal. La surface agricole utile est majoritairement constituée de ces surfaces pastorales. Ça représente 66 000 hectares pour le sud de la Lozère. Alors après, pour vous donner une idée des cheptels, donc le cheptel le plus important, c'est le cheptel ovin-viande. Donc ça, c'est des données de la Chambre d'agriculture, donc avec environ 22 000 têtes d'ovins. Ensuite, on a aussi les ovins pour le lait, avec 19 000 têtes. Et puis un cheptel de bovins-viande qui est en augmentation, avec quasiment 7 000 têtes. Et puis le cheptel des caprins, avec 4 000 têtes. Ça, c'est pour planter un petit peu le décor et montrer que c'est vraiment une activité qui a aussi un poids au niveau économique, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le territoire, les élevages, ils se sont installés aussi en fonction des différentes entités géographiques. Sur les Causses, on retrouve plus d'élevages ovins allaitants ou viande avec des fermes qui sont relativement grandes, qui utilisent en moyenne 300 hectares et avec des cultures souvent associées à ces élevages, des cultures fourragères et des cultures céréalières. Sur les vallées Cévenoles, on a des fermes souvent de taille plus réduite et avec souvent aussi d'autres activités. Et ça sera le cas de la ferme de Julien et Sarah, j'ai eu un trou. Des diversifications, de la châtaigne, des petits fruits, du maraîchage. Et avec un cheptel plutôt tourné vers les caprins. 20% des exploitations sur les Cévennes ont un atelier principal en caprins. Et puis pour terminer, sur les massifs d'altitude, donc Mont-Lozère et Gual, on a plutôt des troupeaux de bovins, des troupeaux aussi ovins allaitants, et puis on a tous les élevages transhumants qui viennent l'été, qui montent des Cévennes gardoises ou héroltaises pour trouver de l'herbe. Donc c'est un petit tour d'horizon un peu rapide. Et avant de passer la parole à tous les gens qui sont autour de la table, faire le lien avec notre projet alimentaire de territoire. Ces élevages, ils ont une action d'entretien du paysage, de l'entretien de l'espace, mais ils produisent aussi évidemment des produits locaux à haute valeur ajoutée, avec souvent des dynamiques collectives pour la transformation. Donc du fromage de brebis avec la fromagerie du Fédoux, avec le fait de faire du lait pour la coopérative de Roquefort, du fromage de chèvre avec la OPP Lardon et aussi la fromagerie de Moissac-Vallée française qui collecte du lait sur le territoire. Et pour ce qui est de la viande, on a différents signes de qualité, l'IGP Agneau de Lozère, l'IGP Fleur d'Aubrac pour les bovins. Donc je vous disais qu'il y avait des dynamiques collectives sur les aspects de transformation, avec des coopératives, notamment des fromageries, mais aussi des ateliers de découpe, donc avec la CUMA des Hauts-Gardons à Sainte-Croix, avec la coopérative La Cosnard sur le Causse, et puis le rôle du CFPPA, donc avec l'atelier agroalimentaire à Florac, qui permet à la fois de former des nouveaux agriculteurs, mais aussi à un certain nombre d'éleveurs de venir travailler leurs produits à l'atelier à Florac. Je vais terminer et du coup je vais te donner la parole tout de suite, Julien, sur juste nous dire un tout petit mot sur le projet d'abattoir de proximité coopératif et paysan, puisque c'est aussi une dynamique en pleine émergence avec un lien très fort avec l'agropastoralisme.
Oui, ça fait une dizaine d'années qu'on était sur ce projet, et là, ça arrive enfin au bout. Ça a été une longue route pour diverses raisons, pour des raisons de coût du projet, hein, aussi pour un petit territoire comme le nôtre. Voilà, à l'origine, c'était un abattoir qui devait être mobile et qui devait se déplacer éventuellement de Florac et peut-être vers le collet de Dèze. Pour l'instant, on a réduit un peu l'envergure du projet. Donc, il s'agit d'une remorque d'abattage qui sera stationnée à Sainte-Croix-Vallée-Française, à côté de justement la CUMA des Hauts-Gardons, où il y a déjà un atelier de découpe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir enchaîner de l'abattoir à l'atelier de découpe pour les producteurs et pour valoriser les productions, justement. Là, on en est au point où on est en train de faire la collecte des signatures, on va dire, des engagements pour l'année 2026 sur quels éleveurs vont participer, à hauteur de combien de bêtes vont être amenées, pour un peu pouvoir poser les bases là de du démarrage, quoi, dimensionner. On doit encore aussi construire un abri notamment pour la remontage, et puis aussi des locaux vestiaires pour le vétérinaire et pour abriter aussi les chambres froides qui vont permettre de faire le ressuyage des carcasses. Donc quand on fait de l'abattage, les carcasses doivent rester quelques jours en chambre froide. Donc voilà, il y a encore un peu de travail sur le côté construction, mise en œuvre concrète. Mais on est dans les starting blocks là maintenant. Je pense que l'an prochain, c'est la bonne année, c'est l'année du commencement.
Ouais, c'est super. Et donc ça, c'est porté par la CUMA des Hauts-Gardons et c'est accompagné en partie par la FR CIVAM en Lozère pour le l'organisation de tout ce collectif.
Oui, voilà, on a été accompagné par la FRCIVAM et Julien Marie, et on a été soutenu par les collectivités aussi hein, pour ça. Et là, c'est une branche de la CLUMA des Hauts-Gardons, effectivement.
Ouais. Bon, je crois qu'on a prévu de faire une émission spéciale sur ce projet, donc on y reviendra. Ben, je vais juste du coup passer la parole aux invités qui sont autour de la table pour nous dire en quelques mots quelles sont vos missions au sein des structures donc au parc et à l'entente. Et puis après, on repassera la parole à Julien pour qu'il nous décrive sa ferme. Romain, vas-y, je t'en prie, commence.
Alors, Romain, du coup, chargé de mission agropasto au parc national des Cévennes, j'interviens sur deux grandes missions. Une première mission en technique, avec l'accompagnement des éleveurs, des bergers, sur des équipements pastoraux. Ensuite, un volet un peu plus animation à l'échelle de tout le territoire du parc, avec l'animation de réseaux, et puis de projets plus structurants sur les milieux ouverts herbacés, et puis la valorisation du pastoralisme sur tout le territoire du parc aussi.
Alors la parole à l'entente, qui commence ?
Eh bien, moi je suis donc Dominique Izard, je suis chargé de mission sur un observatoire de l'agropastoralisme. Alors pour recontextualiser, donc nous l'entente interdépartementale Causses-Cévennes, donc on est une collectivité territoriale et nous sommes gestionnaires du site UNESCO des Causses et des Cévennes. Et donc le site UNESCO Causses-Cévennes, c'est ce qu'on appelle un paysage culturel. En fait, c'est un témoignage justement de la culture agropastorale qui est particulièrement bien conservée ici et du coup qui a accédé à cette reconnaissance de patrimoine mondial de l'UNESCO, donc de l'humanité. Et donc notre rôle, c'est de faire en sorte que cette activité agropastorale, elle puisse perdurer et puis de la donner à voir et de la donner à comprendre au public. Donc moi, ma mission, plus spécifiquement, c'est un observatoire, c'est-à-dire que ce que nous devons, notre mission étant de transférer finalement ce patrimoine aux générations futures, nous devons être capables de le documenter son état de conservation. Donc moi, mon travail, c'est de savoir comment va l'élevage, combien il y a d'agriculteurs, quel type de cheptel ils ont, quel type de production, et comment tout ça, finalement, interfère avec le paysage, donc comment évoluent aussi les paysages, est-ce que les milieux ouverts sont en régression ou en progression, ou, qu'en est-il de la forêt, est-ce qu'il y a plus de culture, plus de pâturage, etc. Donc tout ça, il faut le documenter, voir comment ça évolue, et c'est ça finalement qui va nourrir derrière nos actions, nos projets d'action.
Bon, les chiffres de la Chambre d'agriculture étaient justes.
Ça me paraissait cohérent. Après, moi, j'ai des chiffres sur une autre échelle. Donc...
oui, voilà. Là, on a une imbrication d'échelle. Donc, le PAT est porté à l'échelle du sud de Lozère. L'entente va sur
quatre départements.
Et le parc national a aussi une étendue géographique un peu plus importante que le PETR. Mais c'est ça qui fait la richesse des échanges.
Et moi, du coup, Julie, donc moi, je suis chargée de mission agropastoraliste, à l'entente Causses-Cévennes. Et donc moi, mes missions, pour résumer, donc en complément de Dominique, moi, je fais de l'animation de certains groupes de travail, donc notamment un groupe de travail en lien avec l'année internationale du pastoralisme qui aura lieu l'année prochaine en 2026. Après, on a d'autres groupes de travail qu'on co-anime aussi avec le parc des Cévennes, avec Romain, notamment sur le changement climatique, du coup, qui est à l'ordre du jour. Voilà. Et après, je suis dans plein d'autres projets, notamment notre projet dont on va peut-être parler après, dans un réseau en fait, qui s'appelle le réseau Pasto Massif Central, qui réunit plusieurs techniciens qui travaillent sur le pastoralisme à l'échelle du Massif Central pour monter des projets ensemble. Et nous, dans ce cadre-là, on a l'occasion de réaliser des vidéos chez des éleveurs pour présenter justement le fonctionnement de leur système pastoraux et pouvoir le valoriser, comme le disait Dominique. Et aussi la réalisation de plaquettes pour le grand public, etc. Et comme on le disait, on a un gros travail de médiation auprès du grand public. Donc tous les salariés de l'entente, on est 5 au total, font de l'accueil d'étudiants qui viennent étudier le pastoralisme sur ce territoire-là, des lycées agricoles. On fait des visites de ferme l'été, enfin plein d'animations, des soirées thématiques sur des sujets en lien avec le pastoralisme. Donc c'est très large. Ça peut aller, comme le disait Dominique, de la laine à les milieux ouverts, à l'étude des paysages, etc. Donc voilà, un gros travail de médiation.
Du coup, Julien, maintenant tu vas nous dire, toi, si nous décrire un peu la ferme que vous avez donc au Pompidou, c'est ça ?
Oui, alors c'est ça, on est un peu sous le Pompidou, sous la corniche des Cévennes, à 550 mètres d'altitude, domaine méditerranéen, donc, de l'autre côté de la ligne de partage des eaux de Florac. Alors, on est installé en GAEC, c'est-à-dire avec ma compagne en société, que depuis 2 ans. Mais moi, ça faisait 10 ans que j'avais des brebis auparavant et que je commençais la rénovation de châtaigneraies voilà, sur des terres familiales. Ensuite, ma compagne m'a rejoint et on s'est tourné vers l'élevage caprin, en gardant un peu un lot de brebis pour l'entretien des vergers, justement. Donc nous, on produit maintenant on transforme le lait de chèvre, en fait, et on produit des fromages, des yaourts, des crèmes dessert. Et on fait aussi de la transformation de châtaigne, donc crème de marron. Pour l'instant, on n'est pas encore allé sur le marron naturel. Et la compote de pommes, on doit avoir 2500 m² de verger, un truc comme ça, de pommiers, et on transforme donc en compote. Voilà, pour le verger de châtaignier, c'est à peu près 2 hectares, sachant que il y en a une bonne partie qui est en rénovation. C'est des greffes que moi j'ai commencé il y a 6-7 ans, et dont je commence à récolter les fruits justement là maintenant, ces années qui viennent. Donc ça, c'est un grand plaisir. En ce qui concerne le pastoralisme, du coup, on a la chance d'avoir des terres sur 2 versants, donc un versant nord côté Pompidou, et un versant exposé sud côté Sainte-Croix-Vallée française, ce qui nous permet de bénéficier de végétations différentes et donc de valoriser au cycle des saisons aussi de façon différente la végétation. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, parce que ça nous permet de nous... ça nous donne une assise pastorale qui est importante. Et alors justement, j'entendais parler de l'entente UNESCO, donc nous, les terres qui sont versant sud, côté Sainte-Croix-Vallée française, elles sont au rocher de Castelvieille, et c'est la limite est de la zone UNESCO. On est vraiment à la frontière, on est les dernières parcelles qui sont encore classées dans la zone UNESCO en Cévennes, la limite est.
Et tu nous as pas dit combien vous avez de chèvres?
Donc on a une trentaine, 30-35 caprins et une quinzaine de brebis.
Et c'est pour de la transformation fromagère, du coup? Vous livrez le lait ou vous transformez directement?
Ah non, on transforme, on valorise et on vend après, nous, dans les boutiques paysannes, à Florac, justement, à Mende. On est aussi à Biovaux à Florac et en Biocop à Anduze pour l'instant. On démarche Biocop Mende actuellement, ouais.
D'accord, pour de l'AOP, Pellard?
On est en vente directe ou en circuit court, quoi. Non, on n'est pas en AOP, parce que nous, on avait fait le choix, en fait, de commencer avec une race qui est la Massif Central, qui était la race originelle du sud Massif Central et aussi des Cévennes, et qui n'avait pas été intégrée dans le cahier des charges de l'AOP Pellardon, alors qu'elle figure sur le logo de la coopérative de Moissac. Mais elle n'avait pas été intégrée, puisqu'à l'époque de la création de la coopérative, tout le monde avait abandonné cette race-là pour passer sur des races dites plus productives, que sont l'Alpine, la Sanenne, c'est les chamoisés qu'on voit, la Sanenne, c'est la Blanche, et la Chèvre du Rhône. Donc ce sont les trois races qui étaient... sont intégrés en fait dans l'AOP Pellardon, et en commençant avec la Massif Centrale, ben, on ne peut pas rentrer dans l'AOP Pellardon. Mais nous, on trouve que la Massif Centrale, qui est une race rustique, elle produit moins de lait, c'est vrai, mais son lait est d'une qualité différente que nous, on trouve supérieure pour la transformation.
Et vous êtes en bio?
Oui, alors on est en bio et en esprit parc national sur les châtaignes et les pommes, et on n'a pas encore fait la démarche pour les produits laitiers. Mais je pense qu'on va finir par le faire.
Et petite question, projet alimentaire de territoire, est-ce que au niveau des bouchers, vous êtes, j'imagine que avec une trentaine de chèvres, vous n'avez pas non plus un volume de production énorme, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à fournir la restauration collective? Est-ce qu'il y a donc les cantines, en gros, est-ce qu'il y a vous avez un retour là-dessus?
On a créé un compte agri-local. Et on a commencé à répondre à certaines demandes des collectivités, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé preneur pour nos produits. Okay. Voilà, je pense qu'il y a une question de coût aussi, mais on propose des conditionnements de collectivités, hein, des seaux 3 litres, 5 litres. Bon, on a essayé de réfléchir pour essayer de tirer au plus bas le prix, parce que nous, ça nous intéresse aussi dans l'éthique de pouvoir travailler ici et justement fournir des collectivités. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé preneur.
Bon, il y a encore du travail pour le projet alimentaire de territoire, alors, pour faire ce lien effectivement difficile sur le trouver le bon prix et les bons conditionnements pour faire en sorte que les yaourts soient mangés.
Nous, on essaie de baisser, de tirer au maximum du raisonnable et de trouver des contenants où ça coûte moins cher de consigner les seaux et tout. Donc du coup, on y gagnerait, mais pour l'instant, ça n'a jamais donné suite. Et aussi, les gens connaissent pas le produit. Alors, est-ce qu'ils le veulent? Parce que quand ils disent yaourt, ils ne cherchent pas forcément du yaourt de chèvre. Alors, il y a peut-être aussi un a priori sur le yaourt de chèvre, qui en fait est un yaourt très doux. Mais il y a ça aussi, peut-être découvrir le produit.
Bah, ça se fait de plus en plus, les rencontres entre cuisiniers des cantines et producteurs. Donc, c'est organisé à l'échelle du département, mais aussi au niveau du PETR. Donc, peut-être que ça sera l'occasion un jour de faire goûter vos yaourts. Eh ben merci pour cette première intervention. Donc l'idée de l'émission, c'était de parler d'agropastoralisme, d'avoir du coup un éleveur qui met en pratique tous les jours ce que nous, les techniciens et techniciennes, on imagine dans nos bureaux. C'est un peu ça des fois. Donc c'était important que tu sois là. Et c'était de rentrer, parce qu'on pourrait faire des émissions, on pourrait parler d'agropastoralisme pendant des heures. Là, l'idée, c'était de rentrer par l'angle des adaptations au changement climatique, parce qu'en fait, ce changement dérèglement climatique, il est déjà visible sur le territoire. Et moi, j'avais envie d'aborder la question de l'agropastoralisme directement par ce biais-là, parce qu'on est aussi dans l'idée de comment accompagner les fermes à cette transition, en fait. Peut-être je vais repasser la parole là autour de la table pour déjà que vous puissiez nous dire peut-être comment là déjà maintenant les élevages sont impactés, ce que vous avez pu observer, recueillir comme info, voilà.
Ouais, du coup je peux commencer et puis on se complétera de toute façon tous les trois. Alors déjà pour dézoomer un peu, effectivement, donc à l'échelle même nationale ou même mondiale, les impacts du changement climatique, comme ça va avoir un impact sur les ressources qui sont utilisées pour l'agriculture, c'est très très important. Donc il y a plein d'enjeux qui tournent autour du changement climatique et du pastoralisme. Juste pour en citer quelques-uns, on a le bien-être animal qui est souvent cité par rapport au stress thermique des animaux notamment. On a aussi le bien-être tout simplement des éleveurs, des agriculteurs qui aussi travaillent dans des conditions difficiles, qui vont s'intensifier. Donc ça, c'est aussi un enjeu assez important. Et donc autour de tout ça, il y a plein encore d'enjeux qui gravitent. L'adaptation des bâtiments au changement climatique, les arbres, est-ce qu'on peut un peu plus aller pâturer sous les arbres potentiellement? Enfin voilà, plein de questions qui se posent comme ça sur le bien-être. Ensuite, bien sûr, ça va être des périodes qui vont être modifiées par rapport au changement climatique. Donc là, les éleveurs ont un peu leur calendrier. Chaque type d'élevage est différent, donc chaque calendrier est différent. Mais la date de mise en herbe, la date de montée à l'estive, s'il y en a qui sont transhumants, etc. Toutes ces dates, avec le fait que le climat change et que les périodes de chaleur ou de froid ou de pluie sont modifiées, ces périodes vont changer aussi. Donc ça veut dire une réorganisation du travail. Ensuite, on le voit déjà depuis plusieurs années, mais on a une intensification des catastrophes climatiques et donc des épisodes extrêmes, que ce soit les pluies, que ce soit les sécheresses, que ce soit la grêle, etc. Donc ça, bien sûr, ça impacte le pastoralisme, en tout cas les éleveurs, de manière directe et de manière assez brusque et imprévue. Et ensuite, bien sûr, le gros point, c'est la disponibilité des ressources, comme je disais au début. Donc, est-ce qu'on va avoir assez de fourrage pour passer parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau, ou au contraire parce qu'il y a eu trop d'eau et que tout a pourri? Est-ce que justement on a de l'eau? Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui se posent. Sachant que, du coup, pour resoomer un petit peu plus sur le territoire sur lequel on est, donc là, je parle à l'échelle Causse et Cévennes. Donc, on a la partie Causse karstique qui est un peu plus sèche. Donc là, effectivement, tous ces enjeux liés à l'eau sont un peu la première ligne. Et dans la partie Cévenole, aussi tous les enjeux liés à tous ceux qui nous écoutent doivent avoir entendu parler des épisodes Cévenole. Donc forcément, voilà, des épisodes intenses, que ce soit de pluie ou du coup de sécheresse, qui vont arriver de plus en plus fréquemment. Donc bien sûr, tout ça, ça touche toutes les exploitations du territoire. Donc après, ce qui est intéressant, et du coup Romain pourra en parler un peu plus, c'est que chaque exploitation, même si elles sont proches, ne sont pas du tout impactées de la même manière et ne vont pas du tout avoir la même stratégie à mettre en place pour s'adapter au changement climatique. Donc c'est ça qui est assez intéressant aussi à regarder.
Tout à fait. Et le travail que mène le parc, de soutenir le pastoralisme, chose qu'il fait déjà depuis sa création en 1970, c'est inscrit aussi dans sa charte, le soutien au pastoralisme. Ça s'illustre notamment par des travaux, des études. Et l'année dernière, j'ai pu encadrer un travail sur la vulnérabilité des exploitations agricoles face au changement climatique et quelle stratégie d'accompagnement de ces exploitations. Pour réaliser ce travail, il y a d'abord eu une identification finalement des des évolutions climatiques sur le territoire à un niveau assez précis, par, on va dire par massif en gros, donc les vallées Cévenoles, les Camps, les Causses et puis les Monts. Et donc il y a des projections climatiques qui ont mis en lumière grâce à différentes projections qui existent déjà en mobilisant des outils comme AP3C par exemple, on en reparlera, qu'il va y avoir des évolutions, que ce soit une réduction de la ressource en eau, principalement dans les zones de basse altitude, et à l'inverse, une concentration des précipitations qui vont avoir lieu en hiver et en fin d'automne. Donc on va avoir une ressource qui va se raréfier au printemps, un été, une chaleur qui va s'intensifier, avec un allongement, par exemple, du temps de la chaume pour les brebis. En montagne, on va observer une augmentation des fréquences des orages en été et en même temps une forte diminution de l'enneigement, avec une exposition aussi plus marquée face au gel tardif, des automnes qui vont rester humides et chauds, et donc qui risquent... Tous ces impacts climatiques de modifier un peu les pratiques, par exemple, on risque d'avoir, par exemple, sur les causes, des risques d'échaudage, des céréales, ou peut-être, comme on parlait tout à l'heure du stress thermique des animaux, avec une réduction de la fertilité.
Et donc, tu peux nous en dire un peu plus sur les diagnostics de vulnérabilité que vous avez menés, puisque il se trouve que la ferme des Petits Ruisseaux... a fait partie de ces fermes enquêtées. Donc Julien, tu pourras aussi après nous donner ton témoignage.
Alors ces diagnostics de vulnérabilité, ils ont été conduits par Aurore Laurent, qui était en stage l'année dernière au Parc National. Il y a eu d'abord un premier travail donc, d'identification des évolutions climatiques, des projections climatiques, et puis derrière, pour croiser avec la sensibilité des élevages, un travail d'enquête. Donc il y a 12 exploitations qui ont été enquêtées, répartis sur tout le territoire des Cévennes pour prendre en compte toutes les productions. Donc on a eu aussi bien des ovins-viandes transhumantes, des caprins-lait, des ovins-viandes sédentaires, des bovins-viandes aussi. Et l'idée, c'était de caractériser cette vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la sensibilité à un aléa. La sensibilité, en l'occurrence ici, des fermes face au changement climatique. Et donc... Ce travail a permis de mettre en lumière des sensibilités, des fermes face aux aléas climatiques. Il y a 11 aléas climatiques qui ont été retenus. Donc, par exemple, il y a l'exposition au gel tardif, j'en parlais tout à l'heure, la diminution de l'enneigement, le stress hydrique en été. Et donc, il y a différents... différents aléas auxquels les fermes sont les plus vulnérables. C'est notamment la diminution des précipitations, diminution du niveau des nappes et diminution des niveaux des cours d'eau. Et au contraire, des aléas auxquels les fermes sont moins vulnérables, c'est par exemple l'augmentation des précipitations en automne et des précipitations en hiver, même si derrière il y a d'autres risques, comme des risques d'érosion qui vont être accrus. Tout cela, les éleveurs ont conscience, ils sont conscients du changement climatique qui est à l'œuvre et ont mis déjà en place des adaptations. Et c'était aussi l'objet de ce travail, de caractériser, d'identifier les adaptations qui sont mises en place.
D'accord. Et Julien, du coup, toi, tu peux nous dire sur ta ferme ce que tu observes déjà et peut-être déjà les changements de pratiques ou les adaptations que vous avez pu mettre en place.
Alors oui, ce qu'on observe déjà, alors moi je précise que du coup je suis né dans les Cévennes, donc je suis pas si vieux que ça, je vais avoir 45 ans, donc j'ai vu une modification de, et notamment ce retard de l'apparition des pluies à l'automne. Avant on était vraiment sur du mois de septembre, quoi, et là maintenant c'est parfois il faut attendre novembre pour que la pluie s'installe vraiment. Donc ça, c'est une conséquence directe sur la châtaigne et du coup indirecte sur les troupeaux, puisque quand ça s'est tiré sur le châtaignier qu'il attend la pluie, on va avoir des fruits de plus petite taille. Bon, en grosso modo, on va avoir moins de nourriture pour le troupeau, hein, parce que la châtaigne, on peut la transformer, mais il y a aussi beaucoup de châtaigneraies sauvages maintenant dans les Cévennes. Et si les pluies n'arrivent pas au bon moment, ça fait tout simplement moins de fruits qui feront après moins de nourriture au sol pour les troupeaux qui vont les pâturer, quoi.
Moi, c'est la chose principale que j'ai observée avec aussi la disparition des gelées. Puisque avant, il faisait fréquemment moins de 10, moins de 15. Il pouvait faire quelques jours comme ça dans les Cévennes. Maintenant, ça n'arrive plus. Il y a deux jours de neige par an maximum, le temps de faire un bonhomme de neige avec les enfants, et puis c'est fini. Donc la conséquence de ça, aussi, ça veut dire qu'on peut sortir beaucoup plus souvent l'hiver avec les troupeaux. Donc paradoxalement, pour les éleveurs pastoraux, finalement, c'est plutôt un mieux. C'est l'hiver doux parce qu'on va profiter de la végétation qui des fois même continue à pousser très tardivement. Et puis du coup, les conditions climatiques étant pas mauvaises, on peut exposer le troupeau, on peut aller faire des demi-journées de garde dans des conditions qui sont pas terribles. Parce qu'aller garder en plein hiver quand il fait moins 5 avec le vent du nord et un peu de neige qui tombe et tout, moi je l'ai fait quelques fois, mais je suis pas sûr que personne n'y gagne, quoi, ni le troupeau, ni moi. Donc là, avec ce radoucissement des hivers, en tout cas, c'est une opportunité en fait pour aller exploiter, pâturer à des moments où on le faisait moins peut-être à cause des conditions climatiques. Après, ça a l'air vraiment aléatoire, quoi. Moi, mon sentiment, c'est qu'on ne sait pas vraiment, où ça va ce changement climatique. Est-ce que le Gulf Stream va s'arrêter? Est-ce qu'on va avoir des hivers finalement hyper froids sur la France? Est-ce que pas du tout? Moi, ce que je constate là, c'est que ces dernières années, quand même, nous, en Cévennes, en tout cas, il ne fait plus froid, mais il fait quand même frais tardivement, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas trop de problèmes de gel tardif et tout ça. Et cette année, ça m'a vraiment un exemple. Partout en France, il y avait des bouffées de chaleur et tout ça. Et sur les cartes, systématiquement, si on regardait les cartes, la Lozère était en vert, quoi, alors que tout le reste était en rouge. Est-ce que ça a duré? Est-ce que c'est juste compliqué à savoir, je trouve.
Et l'été, est-ce que tu constates de plus fortes chaleurs, justement, qui vont modifier en fait la façon dont tu sors le troupeau?
Oui, mais c'est vrai que ça s'est étalé quand même. Hein, ce réchauffement des étés, c'est vrai que les étés sont plus chauds. De toute façon, c'est factuel. Hein. Nous, à un ou deux degrés près, c'est toujours les mêmes problématiques. C'est sortir tôt le matin et sortir tard le soir pour pouvoir pâturer. Moi, après, entre temps, en 10 ans, j'ai changé de versant parce qu'au début, j'étais installé versant sud, donc. Là-bas, la problématique était différente. Par exemple, les orientations sud-ouest, on peut sortir jusqu'à midi le matin parce que le soleil, en fait, n'apparaît pas, quoi. Mais là, maintenant, je suis nord-est. Et du coup, en nord-est, à 10 heures du matin, le soleil, il commence bien à taper déjà. Et donc, il faut sortir beaucoup plus tôt, quoi. Et ce qui fait que là, l'été, oui, on doit sortir plutôt entre 7 et 10 le matin. Et puis après, entre 6 et 9 le soir, quoi.
Et donc là, dans tout ce que tu nous as dit, on a vu que tes marges de manœuvre, elles sont beaucoup sur l'organisation du travail, en fait. Sortir plus tôt, rentrer plus tard, changer peut-être des zones de pâturage, pâturer plus en hiver. Est-ce que toi, il y a aussi des investissements sur ta ferme qui seraient nécessaires pour... faire face à certains problèmes? Alors là, je pense à la question de la ressource en eau notamment, mais
la ressource en eau, pour l'instant, ça n'a pas été un problème. Peut-être que ça va le devenir ces années, mais là on a de la chance, hein, on rentre dans une période où, en tout cas, on y est encore, dans une période qui est hyper pluvieuse, quoi. Donc est-ce que ça va durer? Voilà, ça, on sait pas. Mais bon, là, la ressource en eau, non, j'avoue que c'est pas la première problématique. Mais c'est vrai qu'on anticipe, tout le monde nous le dit. Donc, on l'avait vu dans le diagnostic avec Aurore, donc Laurent qui était passé à la maison. Effectivement, de toute façon, c'est quelque chose qui est prévu. Au moins, en tout cas, si c'est pas en quantité totale sur l'année, c'est des périodes de sécheresse et des périodes avec beaucoup de pluie, quoi. C'est la variabilité. Donc ça, on le sait. Et nous, ce que j'anticipe en tout cas vis-à-vis du troupeau et vis-à-vis de la ressource, c'est de pouvoir utiliser la châtaigneraie sauvage, donc qu'on appelle bouscasse ici, hein, les châtaigniers pas greffés, de pouvoir les utiliser en arbre têtard. En fait, parce qu'il y a une quantité énorme de ces arbres qui poussent. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est un travail d'élagage pour rabattre les arbres à 1,80 m, 2 m, à un endroit où une hauteur où les chèvres peuvent pas les manger par elles-mêmes, mais où nous, on peut facilement accéder avec une hache, une scie, pour couper de la branche, en fait. Et l'idée, ça serait, je fais un essai là sur une parcelle, l'idée c'est de faire des arbres têtards, profiter des arbres qui soient déjà implantés, c'est-à-dire des châtaigniers, et vu qu'il a une grosse propension à... Enfin, c'est très vigoureux le châtaignier comme arbre, donc la conduite en têtard lui pose pas de problème. Et donc essayer ça pour générer beaucoup de feuillage, à la fois rabattre l'arbre, la hauteur, du coup faire rentrer de la lumière, avoir des espaces aussi où il peut y avoir à manger au sol, parce que sinon les forêts de châtaigniers hyper denses, ben, y a rien à manger au sol, mis à part des feuilles de châtaigniers et des châtaignes à l'automne. Donc il y a un peu, je pense pour les éleveurs, une nécessité de transformer un peu les paysages qui les entourent pour penser troupeau, quoi. C'est pas forcément quelque chose qui est automatique actuellement, mais je pense que c'est une des bonnes préparations au changement climatique, c'est ça, c'est les arbres, quoi, c'est ouais, utiliser la forêt.
Ouais, ben je rejoins totalement ce que tu viens de dire, Julien, sur c'est donc l'utilisation de la forêt, bien sûr, et ce truc de chaque ferme, en fait, a ses forces et ses faiblesses, aucune va être impactée de la même manière, et donc essayer de s'appuyer sur des choses qu'on peut voir potentiellement comme des faiblesses. Enfin, là, peut-être que tu ne le voyais pas comme une faiblesse. C'est super d'avoir plein de châtaigniers dans tous les cas. Mais du coup, de les utiliser, de les remanier pour les mettre en forme têtard et que ça puisse être utilisé pour faire de l'ombre, pour faire d'autres ressources, etc. Donc, voilà, de bien identifier les forces et les faiblesses de chaque ferme et de voir ce qui peut être transformé et adapté par rapport aux enjeux qui vont se calquer en lien avec le changement climatique sur ces territoires-là, quoi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement déjà toutes ces adaptations qui sont à l'œuvre dans les fermes. Et c'est ce qu'a essayé aussi de caractériser le travail de Aurore. Mais que toutes ces expérimentations qui sont mises en place, il y aurait un besoin de les capitaliser et de les valoriser. Et c'était aussi l'autre partie de son travail, c'était quelle stratégie d'accompagnement des exploitations pour faire face au changement climatique. Et donc on s'est réunis en groupe de travail, tous les acteurs qui accompagnent le conseil à l'exploitation agricole, et finalement de faire des réunions entre pairs, de faire témoigner des éleveurs sur les pratiques qu'ils mettent en place. C'est un moyen voilà, de favoriser l'accompagnement, de favoriser l'adaptation en voyant ce qui se fait un petit peu les uns chez les autres, et que finalement il n'y a pas d'exploitation qui est plus adaptée qu'une autre au changement climatique, même si on voit que voilà, des systèmes un peu plus autonomes, ou en tout cas des systèmes qui dépendent un peu moins de ce qu'on va appeler des intrants, donc des ressources externes, vont être un peu moins vulnérables au changement climatique. Mais un besoin d'accompagnement, ça passe par des besoins de capitaliser ce qui se fait et de valoriser ce qui se fait, et aussi d'aller valoriser les travaux de la recherche, parce que ben voilà, le changement climatique, c'est un sujet qui fait partie intégrante maintenant des différents sujets de recherche, et un besoin de vulgariser pour le porter à connaissance des éleveurs.
Et moi, ce que je trouvais intéressant de ce qu'a dit Julien, c'est le lien avec le paysage. En fait, c'est évidemment l'activité pastorale façonne les paysages. Et là, on voit que finalement, les adaptations qu'il va mettre en œuvre là sur les châtaigneraies sauvages vont avoir une influence aussi sur le paysage. Donc, c'est un paysage qui évolue aussi avec les contraintes et les difficultés qui sont inhérentes du coup à l'activité et en fait à l'environnement tout simplement. Donc, ça, c'est assez intéressant.
Que j'ai parlé du châtaignier, mais je pense que c'est la même, enfin non, c'est un peu différent, mais il y a une problématique sensiblement, on va dire pareil, avec le chêne vert. C'est que le chêne vert, en l'état, il colonise à peu près l'entièreté des versants sud en Cévennes, là. Et il forme un espèce de maquis qui devient complètement impénétrable, alors en dehors des menaces incendies que ça représente et tout, et aussi du fait que c'est un hébergement à sanglier où ça favorise la prolification du sanglier qui cause d'autres dégâts. Ça pourrait être une formidable ressource aussi, la chênaie, mais il faudrait qu'elle soit travaillée comme on pourrait travailler effectivement la châtaigneraie. Hein. La chênaie, il faut la remonter, il faut pouvoir passer dessous avec les troupeaux, donc il faut élaguer les branches basses. Et pouvoir créer de l'espace, faire rentrer de la lumière, créer de la végétation basse qui pousse dessous pour que ça soit de la ressource pastorale aussi, et que profiter des glands et de l'ombre qu'apporte le chêne vert pendant les périodes chaudes. Donc effectivement, il y a une reconstruction de création de paysages, et il y en a à faire aussi avec la chênaie, Et en fait, ça serait c'est des formidables ressources, je pense, pastorales d'avenir, parce qu'on se doit, nous, les éleveurs, je pense, d'utiliser ce qui est déjà présent, en fait. Et là, la déprise agricole, elle a généré une pousse forte de la forêt, hein, qui est vraiment recouvre une bonne partie du territoire. Mais je pense qu'il faut apprendre à la valoriser, parce que sinon, c'est décourageant. Hein. On se dit que c'est de la forêt partout et que c'est pas la peine d'amorcer des activités pastorales, en fait. Puisque si on limite le pastoralisme au milieu ouvert, ça ne va pas être possible d'installer des gens ou même de faire vivre ceux qui sont déjà là. Quoi.
Et un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est les tensions autour de la ressource en eau et ses différents usages. Et moi, je me demandais, du coup, Julien, si toi, tu avais constaté si tu avais des nouvelles difficultés pour l'abreuvement des troupeaux liées à, finalement, une ressource en eau qui serait plus faible et des ruisseaux asséchés.
Non, pas encore. Mais ça va peut-être venir. pas encore, parce que là, comme je disais, on est dans une année bien pluvieuse. L'année dernière aussi, ça allait. Les quelques années d'avant, ça a été un peu plus tendu, mais pas au point de poser problème. Non.
D'accord.
Et moi, j'ai juste une question aussi, Julien. C'est ce que disait Romain sur le côté autonomie des fermes. C'est celles qui vont être les plus résilientes et c'est surtout celles qui ont plusieurs ressources sur lesquelles s'appuyer, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller sur autre chose. Et toi, ce qui est intéressant, du coup, c'est que tu es dans un système hyper diversifié avec les châtaignes, etc. Et du coup, je voulais savoir si ça, par rapport aux effets que tu vois déjà du changement climatique que tu as perçu, est-ce que tu vois l'intérêt, en fait, de ton système en polyculture élevage, en fait, qui fait que tu peux être résilient par rapport à une certaine année où, par exemple, tu aurais moins de ressources à la châtaigne, mais du coup, ça rattrape sur l'élevage et inversement.
C'est une belle idée. je suis pas sûr que ça soit vrai, parce que en fait, il y a deux façons de voir les choses. Pour moi, pour une ferme, en tout cas, c'est où on la regarde d'un point de vue économique. Et sa viabilité actuelle, dans le système capitaliste dans lequel on est, où on la regarde d'un point de vue paysan, et est-ce qu'une ferme qui peut tenir sur ses deux jambes pour nourrir une famille et éventuellement vendre du surplus. Donc, si on le regarde d'un point de vue paysan, oui, je pense que c'est un atout, et oui, je pense que c'est résilient, parce que effectivement, plus on multiplie les cultures, plus on a des chances de tirer profit ou de tirer un fruit, en tout cas de l'une d'entre elles, malgré les aléas climatiques. Si on parle d'un point de vue économique, non, je pense pas, parce que dès qu'on est tellement sur le fil économiquement en général que dès qu'il y a une culture dès qu'il y a une entrée d'argent qui n'arrive pas, elle n'est pas compensée par l'autre, quoi. Ça serait très rare qu'une année où il y ait moins de lait, il y ait plus de châtaignes, par exemple. Je ne crois pas trop que ça pourrait se passer comme ça. Et l'autre chose que j'ai pas dit, pour être complètement transparent aussi, en fait, quand j'ai présenté ma ferme, c'est que nous, on n'a pas de prairie de foin. Donc, on ne fait pas de foin. Donc, on importe, on a des intrants, comme ça vient d'être dit, et effectivement, ça, c'est une dépendance et c'est une faiblesse de notre ferme. Et je ne crois pas qu'on serait capable, en l'état actuel, de pouvoir produire avec uniquement la ressource extérieure. Pas de produire ce qu'on produit actuellement. Même je suis sûr que non, en fait.
Ouais, parce que c'est aussi une question de temps, de surface accessible. Et
oui,
de...
si on avait des surfaces, effectivement, peut-être on pourrait faire du foin, effectivement. Mais on n'a pas accès à des surfaces qui s'y prêtent, quoi.
Bah après, ton histoire de modèle, je trouve que c'est intéressant, parce que ça questionne effectivement toute la transition peut-être nécessaire des fermes pour être plus résiliente face à la fois au changement climatique, mais aussi à des questions sociales, à la question de comment on travaille sur une ferme. Enfin, donc, je trouve ça intéressant que tu aies terminé ton intervention là-dessus. Ça ouvre sur un débat intéressant. Il y a Romain qui me fait un signe qui veut intervenir aussi.
Ça me fait penser qu'en fait, les adaptations peuvent se raisonner effectivement à l'échelle d'une ferme, mais qu'il faudrait plutôt avoir une adaptation systémique, dans le sens où il faut que ce fasse global et peut-être même à l'échelle d'une filière pour qu'il y ait quelque chose de plus efficace, de plus efficient sur le territoire, et justement travailler sur des modèles les plus les plus résilients et les plus robustes face au changement climatique. Et Julien le disait, effectivement, il y a des freins au niveau local. Et c'est un peu le rôle de nos structures, soit l'entente, le parc, d'essayer de lever ces freins ou en tout cas d'apporter des solutions, que ce soit à travers la PAC, par exemple, pour faire en sorte que les élevages agro-pastoraux des Cévennes soient aussi mieux reconnus.
Et puis le PETR fait aussi, apporte un peu sa pierre à l'édifice en portant ce projet alimentaire de territoire et en accompagnant notamment les communes sur leur stratégie foncière pour essayer de débloquer des surfaces foncières, de faire des réserves foncières pour permettre notamment l'installation ou de conforter des fermes. Donc à chaque niveau.
Et de valoriser les produits locaux.
Et au bout de la chaîne, de faire en sorte que les produits locaux soient consommés, notamment dans les cantines, par les enfants du territoire. Bah écoutez, merci. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, dont on pourrait parler encore pendant des heures, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter encore quelque chose avant que je passe aux petites annonces du PAT?
Oui, bah, du coup, on peut parler d'une ressource qui peut être intéressante, dont on a juste parlé rapidement, mais on n'en a pas trop parlé. C'est le projet AP3C,
oui.
Voilà, qui est porté par le CIDAM, donc, qui est le regroupement des chambres d'agriculture du Massif Central, en fait. Et donc, nous, on travaille avec eux à travers le réseau que j'évoquais au début, le réseau Pasto Massif Central. Et leur travail est assez intéressant. En fait, le but, c'est vraiment de mesurer les effets du changement climatique au niveau du Massif Central à horizon 2050, parce que c'est une date qui nous parle un peu plus que 2100, et aussi parce que 2050, en fait, on sait qu'on est sur une trajectoire qui est inflexible jusqu'à 2050. Si on arrête tout aujourd'hui, dans tous les cas, on a un tracé de réchauffement jusqu'à 2050. Donc c'est pour ça que c'est cette date qui a été choisie. Et du coup, c'est assez intéressant. Le but, c'est vraiment que ces données qui sont issues de ce travail, de ce projet AP3C, soient utilisées par les techniciens pastoraux et puissent redescendre aux éleveurs. Donc c'est créer des indicateurs pour mesurer, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, la date de mise à l'herbe, connaître un peu les dates en fonction de telle ou telle année, si le fourrage sera disponible ou pas, le départ de la végétation, etc. Donc il travaille avec un climatologue, notamment sur ce projet-là qui s'appelle Vincent Caillez. Et le pixel est assez fin, du coup il y a un pixel de 500 mètres, donc c'est ce que je disais juste avant, c'est intéressant de percevoir à l'échelle vraiment d'un petit territoire qu'est-ce qui va se passer précisément, parce que d'un versant à l'autre, comme disait Julien tout à l'heure, c'est pas du tout les mêmes enjeux en fait, et le réchauffement, même s'il est global et que bien sûr on tend vers un réchauffement, ça va pas être les mêmes impacts sur les fermes au niveau très local. Donc voilà, du coup ça c'est une ressource assez intéressante et donc tout est disponible sur le site du CIDAM, il y a pas mal de cartes etc. qui parlent d'aspects assez techniques, hein, voilà, la pluviométrie etc. Mais c'est chouette de pouvoir se rendre compte à une échelle assez fine de ce qui va se passer, et donc ça se base sur des stations météo qui sont implantées un petit peu partout sur les différents départements du Massif Central.
Et pour compléter, juste, c'est voilà, on voit qu'il y a beaucoup de travaux, en fait, beaucoup d'études sur la question du changement climatique, et que c'est pas évident d'y voir clair. Et c'est pour ça qu'on essaye de se coordonner entre l'entente et le parc, notamment sur un petit groupe de travail. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir déjà créer un espace, un lieu de discussion, en fait, entre les différents acteurs territoriaux qui sont en lien avec l'agriculture, pour évoquer ces questions autour du changement climatique, de mutualiser l'information pour savoir en fait tellement de choses qui se font, chacun est informé de différents aspects, donc on essaye de mettre ça en commun, on essaye d'identifier ce qui existe mais aussi ce qui manque, et notamment par rapport à nous, nos échelles très locales, nos spécificités locales, et l'idée, c'est de pouvoir voilà, capitaliser tout ça et être en capacité à un moment donné de le restituer aussi aux éleveurs, à la profession. L'idée, c'est d'être utile, et s'il y a des outils comme cet exemple d'AP3C qui existe, il faut aussi qu'on puisse informer en fait, sur comment l'utiliser. Et on aimerait à la fin pouvoir aussi coordonner des actions en fait, pour aider et soutenir la profession à s'adapter.
Ben merci à tous et à toutes. Alors juste deux petites infos sur des événements en lien avec le projet alimentaire de territoire. Le contrat local de santé Gorges-Cauce-Cévennes organise une conférence santé le 17 juin sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Et l'alimentation en fait partie. Et la Chambre d'agriculture et Interbev organise le 20 juin les rencontres à table avec le spectacle Carnet Lassie de la compagnie Gérard Gérard et un débat autour de la production et de la consommation de viande. Merci, à bientôt et on passe à la chronique Jardin.
Merci.
Merci.
Merci. Merci Julien.
Yes, yes, my flowers are beautiful.
Jackie, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes.
Et qui les écoute aussi, c'est important.
Et il les a trouvés où, ces légumes? Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carotte?
Le drame avec Jean-Jacques, c'est qu'il ne peut pas contrôler sa force.
Bonjour Jean-Jacques. Alors, la dernière chronique était consacrée à la culture de la pomme de terre. J'imagine qu'aujourd'hui, elles sont en fleurs pour tous les jardiniers et les jardinières qui les avaient plantées au moment de la floraison des lilas. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la culture des courges et des courgettes.
Oui, bonjour. Alors, la culture des courges et des courgettes, alors, c'est déjà une plante que j'adore, les cucurbitacées. Cucurbitacées, plante tropicale, qui aime la chaleur, qui aime la matière organique, qui aime le compost. Voilà. Alors, les courges, c'est une famille formidable, je dis, parce que est-ce que vous connaissez un autre légume qui puisse faire un fruit qui fasse autant 100 grammes que 100 kilos? C'est la courge, par excellence, c'est le légume de la diversité. Les formes et les couleurs, les longues, les rondes, les ovales, les bossues, les verruqueuses, les rouges, les vertes, les jaunes, et j'en passe. Et les bicolores et les tricolores. Donc voilà, c'est une famille que j'adore. C'est, voilà. Donc là, on va plutôt parler de la courgette, qui est parmi un des légumes le plus cultivé de cette famille-là. La courgette, je dis toujours, c'est la courgette chez les cucurbitacées, c'est la pomme de terre chez les solanacées. C'est-à-dire, c'est un légume qui est quand même facile à cultiver. Pourquoi ? Et bien acclimaté en Europe, même si c'est une plante tropicale, parce qu'elle a un cycle végétatif très court. Voilà. La pomme de terre, c'est 3 mois, et la courgette, c'est 2-3 mois. Donc, ce qui va permettre d'en semer tôt, d'en semer tard, d'en semer à la saison. Et donc, ça va être un autre avantage. Là, actuellement, moi, nous sommes le 20 mai, et je vais récolter mes premières courgettes le 21 mai. Alors, j'ai pris quelques précautions, je les ai mis un petit peu sous abri. Et bon, c'est ce qui montre bien qu'on peut avoir des courgettes avant l'été. C'est intéressant. Voilà. Alors, quelles sont les exigences de la courgette et des courges en général? La première exigence, c'est la chaleur. Puisque ce sont des plantes tropicales, ce sont des plantes gélives. Et c'est des plantes qui, d'ailleurs, n'aiment pas les basses températures. Quand les matins, il fait 5 ou 6, elles n'aiment pas trop. Mais la courgette, parmi toutes les cucurbitacées, c'est la plus rustique. Donc, c'est celle qu'on va pouvoir planter en premier. Voilà. Alors moi, c'est la seule cucurbitacée que je cultive, j'en sème 5 fois. Alors, c'est pas du tout le cas des melons, ni des citrouilles, ni même des concombres, si on va par là. Voilà. Alors, les exigences des cucurbitacées, ce sont la matière organique et la chaleur. La matière organique, alors, il faut pas hésiter, lors de la plantation, lors de la préparation du terrain, à rajouter copieusement du vieux fumé ou du vieux compost, ou du compost tout court même, je dirais. Je dirais que la moitié de la composition de la terre, ça doit être ça. C'est le premier prérequis pour que la courge ou la courgette pousse dans de bonnes conditions. Donc il lui faut de la chaleur et il lui faut de l'humidité. Alors, plus on a de la chaleur, plus elle va accepter l'humidité. Quand on a des nuits fraîches comme ces derniers temps on a eu, il faut y aller un peu plus raisonnablement sur l'arrosage. Sinon, il y a des maladies qui arrivent assez vite. Donc, on a 2 façons, pour ne pas dire 3, de planter les courgettes. Alors, moi, la première façon, c'est sous serre dans des petits pots. Ça permet de gagner à peu près 1 mois. Donc, j'ai planté, on va dire, autour du 1er avril, mes premières courgettes en pot. ça permet d'avoir des courgettes qui seront piquées autour du 1er mai et des courgettes qui vont commencer à donner autour du 1er juin. Donc déjà, c'est intéressant. On voit bien que ça pousse vite et c'est très intéressant. Voilà. Deuxième possibilité, vous n'avez pas de serre. Vous avez une petite vitre, quelque chose comme ça. Vous allez faire des poquets dans le jardin. Vous allez mettre dans votre poquet une bonne quantité de compost et vous faites un trou et vous y mettez 5 ou 6 pelletés de compost. Vous allez faire un petit nid et vous allez semer quelques graines de courgettes. Vous allez recouvrir d'une vitre et ça va très très bien marcher comme ça. Donc pour la courgette, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une grande serre, une simple vitre, une simple boîte en plastique qui fera serre tropicale, hein. Une toute petite boîte qui fait 20 cm sur 10 suffira et vous allez gagner 3 semaines. Troisième solution, vous voulez le faire à l'ancienne, si je peux dire. Alors là, il va falloir attendre que les beaux jours arrivent. Les beaux jours arrivent, ça veut dire grosso modo, après les scènes de glace, autour du 15 mai. Si vous avez la chance d'être dans les Cévennes méridionales, vous pouvez les avancer à fin avril. Voilà. Et là, il vous suffit de faire des poquets, comme je viens de dire précédemment, et vous semez vos courgettes en pleine terre, et vous laissez faire la nature. Voilà. Alors, la courgette, elle va vite pousser. C'est ça qui est intéressant. Par contre, elle va vite fructifier, et au bout de 5, 7, 9, 12 courgettes par pied, elle va se fatiguer. Elle va, surtout que parfois, certaines courgettes s'avortent. Alors, on me dit, pourquoi les courgettes s'avortent? Alors, soit c'est parce qu'il n'y a pas assez de pollinisateurs, soit parce que les conditions de pousse ne sont pas excellentes, il fait un peu trop froid, un peu trop sec, un peu trop chaud, ou vous avez oublié d'arroser. Voilà. On ne va pas s'embêter de traiter les courgettes, il n'y a besoin d'aucun produit pour traiter les courgettes. Pourquoi? Parce que rapidement, quand la plante va être grande et fatiguée d'avoir fait un certain nombre de courgettes, il y a un champignon qui s'appelle l'oïdium, qui va faire un feutrage blanc sur les feuilles de vos courgettes. Et pas que les courgettes, les concombres, les melons, les citrouilles. En général, ça arrive dès que le milieu de l'été arrive et que nous avons des nuits fraîches au bord du Tarn, par exemple à Hispagnac, et pas que à Hispagnac. Pour éviter cela, alors on a deux solutions, soit on met un peu de soufre-fleur, alors ça c'est un traitement, utilisé en agriculture biologique, mais si on veut éviter ce traitement, et si on veut éviter que l'oïdium arrive trop vite, il suffit de ressemer plusieurs fois les courgettes. Comme ça, vous obtiendrez toujours des jeunes pieds de courgettes résistants, productifs et pas malades. Mmh. Alors moi, je sème des courgettes. Les premières, je les sème fin mars, sous serre. J'en sème en avril, j'en sème en mai. Ensuite, j'en sème en mai, juin, en pleine terre. Et puis, j'en ressème en juillet pour en avoir en septembre. Et j'essaye un dernier semis tout début août. Et donc, ça sera des belles courgettes pour septembre, octobre, jusqu'au gelé. Et ainsi, je n'ai pas à traiter mes courgettes, j'ai toujours de belles courgettes productives. Alors, il ne faut pas mettre 10 courgettes à chaque fois, parce que sinon, vous allez avoir des courgettes, vous ne saurez pas qu'en faire. Il faut en mettre 2 ou 3 pieds à chaque fois, ça suffit amplement pour nourrir une famille.
Ok, et alors justement, quelle est ta recette favorite à base de courgettes?
Nous, on adore les courgettes revenues à l'huile d'olive avec des épices comme le curry ou les épices tandoori. Donc, c'est très simple. Vous les épluchez, vous ne les épluchez pas. Je n'épluche jamais mes courgettes. Vous les coupez en cubes, vous les faites rissoler à l'huile d'olive bien à feu vif. Et quand ça commence à cuire au bout de 10-15 minutes, surtout, vous ne les faites pas devenir en bouillie. Hein. Vous faites en sorte qu'elles restent bien en cubes. Et vous ajoutez de l'assaisonnement, des épices tandoori. Et c'est très simple, très facile à faire et très bon. Sinon, vous pouvez les faire en flan de courgettes. Donc, vous prenez vos courgettes, vous les mettez dans un cuve-vapeur. Donc, c'est une cuisson très saine, sans matière grasse. Et quand elles sont cuites, environ 20-25 minutes, vous les réduisez en purée, vous les assaisonnez. Vous ajoutez de l'œuf, si je me souviens bien. Et vous les mettez dans des petits ramequins, de la crème. Et vous les mettez à dorer au four. Et ça fait des flans de courgettes, c'est très bon.
Eh ben merci Jean-Jacques pour merci. Cette petite chronique jardin. La prochaine émission Chaud Patate sera animée par Louise. Elle recevra Émilie Pourré du Réel CPIE 48 et Claire Masson de Promotion Santé Occitanie pour parler du programme de sensibilisation des écoliers de la terre au ventre. Et nous aurons une autre chronique jardin sur la fraise. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et à bientôt.
À bientôt.
À table !
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire
sur Radio Bartas.
107 FM.
À table !
Retrouvez-nous une semaine sur deux, le mardi à 15h et le dimanche à 11h30.